Chapitre 62. Après que la pluie a balayé les hauts plateaux, le paysage couvert de mousse resplendit d'un vert presque surnaturel. La rivière Kaldagvisl a creusé un canyon profond et sinueux dans la roche volcanique. L'eau embrasse le pantalon de wading de Sven Ove Kranz. Un courant puissant le tire vers l'avant. Avec de petits gestes vifs, il fait évoluer à la surface de la rivière la mouche de pêche scintillante faite de deux bandes de plumes d'oie rouge, d'un corps argenté et d'un hackle bleu noir. Après quelques pas de côté prudents, il effectue un nouveau lancer. Des gouttelettes éclaboussent sa main droite lorsque la ligne effleure l'eau. La mouche flotte parfaitement à l'endroit où la rivière est calme. L'eau de fonte du grand glacier est si froide que Sven Ove a les pieds engourdis. Mais il ne peut pas s'arrêter maintenant. La mouche est attirée vers les tourbillons qui se forment autour d'un rocher. La pointe de la ligne flottante plonge et Sven Ove lève sa canne en bambou dans un mouvement contraire. Il sent immédiatement la secousse brutale lorsqu'il a une prise. Le moulinet siffle, tandis que la ligne se déroule dans le sillage de l'omble qui traverse la rivière et pénètre dans les eaux sombres à proximité du flanc vertical de la montagne. Sven Ove laisse la fine canne à pêche se plier et couiner. Son portable vibre dans son sac à dos. L'omble se presse vers l'aval de la rivière et descend dans les sombres profondeurs. La ligne tendue frémit lorsque les flots turbulents pulsent contre elle. Sven Ove essaie de fatiguer le poisson tout en gardant un œil sur l'onde cristalline. L'omble se déplace brusquement sur le côté, fonce droit vers le courant où l'eau bouillonne et écume. Sven Ove essaie de le retenir, sachant que la ligne flottante risque d'être happée par le courant, ce qui pourrait arracher l'hameçon de la bouche du poisson. Lentement, il se rapproche des rapides, résiste au courant en s'aidant de ses pieds et regarde la ligne se frayer un chemin à la surface de l'eau. Il tend le bras et soulève la canne à pêche qui s'arc en demi-cercle. Le poisson arrête sa course, puis fait demi-tour vers le flanc de la montagne. Sven Ove ne cédera plus à la tentation de se précipiter. Il va laisser l'omble se débattre contre l'élastique de la canne jusqu'à ce qu'il soit si fatigué qu'il puisse le remonter en douceur. Au bout de 5 minutes, le poisson apparaît à la surface, se couche sur le côté et frétille en projetant une gerbe d'eau. Sven Ove actionne le moulinet et remonte doucement la ligne en veillant bien à maintenir l'omble sous la surface afin qu'il ne s'en mêle pas dans le fil et n'arrache pas sa fine nageoire. Il le laisse glisser jusqu'à lui, le prend délicatement dans ses mains, veillant à le saisir au-dessus des branchies, puis dégage l'hameçon de sa bouche. Il regarde son corps parfait, ses flancs argentés et son dos gris plomb. Fait un bisou sur son nez rond et le laisse filer dans le courant. Sven Ove remonte la rivière. Ses pieds sont engourdis et il glisse sur les rochers, mais réussit à garder l'équilibre et atteint finalement la rive. Les sommets montagneux, gris anthracite, sont enveloppés dans une épaisse couverture de nuages, blanches. Il pose sa canne à pêche dans la mousse et se débarrasse de son sac à dos au moment où son portable se remet à sonner. « Kranz ?» répond-il, sentant l'odeur du poisson sur sa main. « Je m'appelle Junalina, » dit un homme à l'accent finlandais. « Je suis inspecteur à la section opérationnelle de la police. Je suis en vacances. De quoi s'agit-il ? J'aimerais vous parler d'une de vos anciennes patientes, » répond-il. « Avez-vous le temps de me rencontrer ?
Oui, mais je suis à 100 kilomètres à l'est de Reykjavik.
Vous fabriquez vous-même vos mouches ?
Oui, répond-il avec étonnement en regardant autour de lui. C'est un hobby.
Vous souvenez-vous d'une patiente qui s'appelait Mara Makarov ?
Vu qu'un inspecteur de la NOA connaît forcément le droit à la confidentialité, je suppose que Mara a fait quelque chose de mal.
Elle est soupçonnée de 6 meurtres.
Vous pouvez vous tromper ?
Comment est-elle en tant que patiente ?
Très anxieuse au début, mais elle a bien réagi au traitement. Par la suite, nous avons réduit la médication à un minimum stable et lui avons progressivement donné la permission d'aller et venir dans le service. » Svenové s'assied sur un rocher et raconte à Juna comment il a connu Mara et quel était son traumatisme. Puis il décrit sa méthode consistant à considérer les propos de sa patiente comme véridiques afin de traiter sa psychose. « J'ai donc fait ce qui me semblait raisonnable », explique-t-il. « J'ai noté le témoignage de Mara et j'ai contacté l'inspectrice responsable de l'affaire. Vous souvenez-vous de son nom ?»« Saga Bauer. » « Comment a-t-elle réagi ?»« Elle m'a écouté et m'a remercié pour mon aide. » « Mais j'ignore ce qui s'est passé ensuite, » répond-il. « Vous souvenez-vous de ce que vous lui avez dit ?»« Pas en détail. Tout ça est écrit dans le dossier de Mara, mais c'était à propos du fait que le KGB ou un tueur en série avait enlevé toute sa famille et l'avait caché près de... C'était le nom d'un endroit qui n'existe pas. Vous vous souvenez de ce nom ? Juste que ça sonnait russe. Peut-être... Jaïeba, Vajaba... Non, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, Mara a affirmé qu'elle avait finalement réussi à échapper au tueur, mais que la police ne l'avait pas écoutée, qu'elle l'avait simplement enfermée dans un hôpital psychiatrique. Elle affirme qu'elle aurait retrouvé sa famille et l'aurait sauvée si elle n'avait pas été placée dans un centre de soins. Svenové se lève et regarde le courant. Il sent le bonheur l'envahir en songeant qu'il aura la rivière pour lui seul pendant encore 4 jours. « Avez-vous eu des nouvelles de Saga Bauer ?» demande Juna. « Non, mais je ne m'y attendais pas non plus. » « Mara a-t-elle modifié son histoire au fil du temps ?» Elle a abandonné l'idée du KGB. « Mara voulait-elle que vous contactiez quelqu'un d'autre que Saga Bauer ?» « Non, mais elle demandait souvent si Bauer m'avait contacté. » « De qui d'autre vous a-t-elle parlé ?»« Principalement du capitaine du bateau, qu'elle croyait être la même personne que le tueur en série que Saga Bauer pourchassait. Elle a aussi parlé de sa famille, de ses parents Ivan et Tatiana, de sa sœur Natacha et du fils de Natacha, Ilya. Et du gardien de prison. Oui, mais sans dire son nom. Et concernant les autres patients dits heureux, elle les mentionnait de temps en temps. A-t-elle parlé d'un certain Jakob Fauster, Maître Fauster? Non. Jurek Walter? Je ne me souviens plus très bien. Mais je serai de retour à Stockholm la semaine prochaine. Je pourrai ressortir son dossier si vous le souhaitez. Une dernière question, dit calmement Juna. Quelqu'un a appelé Mara l'araignée. Cela vous évoque quelque chose ? Svenové regarde la rivière qui s'écoule devant lui et laisse venir des images de Mara. Il se souvient de la manière qu'elle avait de s'exprimer, de son souffle court. Elle parlait souvent des araignées qu'elle observait durant sa captivité, des petites chasseuses incolores qui paralysaient leur proie puis les emmaillotaient dans un cocon et y injectaient leur venin pour les dissoudre. Juna pose le téléphone sur la table et regarde l'église Adolf-Frédéric, l'hôtel de ville et la flèche qui surplombe le vieux commissariat de police. Il pense avoir compris. Lorsque le psychologue a contacté Saga, l'enquêtrice est devenue si importante aux yeux de Mara Makarov que même après être passée du statut de victime à celui de meurtrière, celle-ci continue de se tourner vers Saga. Juna doit de toute urgence parler à Saga. Il ne pense pas qu'elle ait aidé Mara de quelque manière que ce soit. Et même si c'était le cas, il faut qu'elle se rende au plus vite. La police n'a pas encore tenu de conférence de presse, mais les médias ont déjà commencé à spéculer. L'atmosphère à la Enoa est tendue au point d'en devenir étouffante. Le portable de Saga a été localisé à Seffel et a été retrouvé dans un camion de déménagement en plein déchargement. Un lien a été établi entre elle et Stéphane Broman. Le samedi précédent, elle avait passé un appel anonyme à la police pour informer qu'il payait régulièrement des services sexuels. Les experts ont aussi retrouvé des traces de soude caustique sur sa moto et des poils de cheval à l'intérieur d'un de ses sacs à dos. Manvir a déjà ordonné une perquisition au domicile de Saga, et la situation pourrait dégénérer en une chasse à l'homme de grande envergure. Juna pense à elle. Il essaie de voir les choses de son point de vue. Il est certain qu'elle comprend pourquoi on la soupçonne. Dès qu'elle aura ravalé sa fierté, elle le contactera. Il attrape son portable et appelle Morgan Malmström, le directeur de la NOA, pour lui faire part de ses réflexions. « Je comprends ce que tu ressens », répond Morgan après une courte pause. « Mais Saga reste le principal suspect avec Mara Makarov. » « Mais ce n'est pas elle. Elle a beaucoup de réponses à nous donner et elle a un alibi pour presque tous les meurtres. Je sais. Je veux dire, elle n'a tué personne. » L'interrompt Juna. On ne dit pas ça. Mais elle est impliquée. Manvir en a la preuve. Tu le sais. Le coupable n'est pas seulement la personne qui appuie sur la détente. Juna ferme les yeux quelques secondes. S'assied. Et prend une profonde inspiration. La seule chose que je dis, c'est que... Si j'essaie de convaincre Saga de se rendre... Je dois pouvoir lui garantir que c'est moi et personne d'autre qui l'accueillerait et l'emmènerait au centre de détention. Elle te fera confiance? Je pense que oui. Mais ça doit se passer en toute discrétion. Pas d'enregistrement formel. Pas de procureur. Pas de communiqué de presse ou de... 2 jours. L'interrompt Morgan. Quoi? Je te donne 2 jours. « Alors tu me promets que je pourrai procéder à ma manière ?» demande Juna. « Oui. Et si je parviens à entrer en contact avec elle, je t'appelle et tu fais en sorte qu'on ne passe pas par l'entrée officielle du centre de détention. »«
Si tu penses que c'est le mieux. »
répond Malmström.